Pour ce huitième Radio Barc, la troisième partie, Yves Bastier prévoit que l'on parle un petit peu plus de... Alors, non pas du maire et du chasseur, peut-être aussi, mais surtout de l'homme. Alors, première question peut-être qui se pose, monsieur Bastier. Lorsque vous avez des loisirs, est-ce que vous allez chasser ?
Ah, quand je peux, je vais chasser. J'adore la chasse parce que j'adore les chiens. Et j'ai toujours eu des setters anglais. Et mon plaisir d'aller à la chasse, c'est avant tout, un, d'être seul. On en a besoin de temps en temps. Et c'est de voir ces chiens chasser, d'être avec eux. Voilà, ça c'est...
Et là, vous oubliez un peu quand même les responsabilités
un peu
de
beaucoup,
la fédération.
Un peu beaucoup.
C'est une évasion, quoi. C'est une manière...
C'est une évasion, oui. Voilà, parce que bon, physiquement, étant cassé un peu de partout, surtout, c'est les conclusions du rugby, ça. Je peux plus donc courir comme j'aurais aimé, je pouvais plus taper dans une raquette de tennis comme j'aurais aimé, donc il me reste le bricolage et la chasse, et voilà, et c'est vrai que là je m'évade et je me régale.
Ouais. Et vous parliez de chiens, vous avez des affinités particulières pour certaines races de chiens?
Ah, les setters anglais.
Oui.
Voilà, je suis amoureux de setters anglais. Bon, mon père en avait. On a toujours une lignée de setters anglais.
Alors vous êtes né là-dedans.
Voilà. Et puis c'est des chiens qui vivent avec vous. C'est des membres de la famille. C'est pour ça que quand vous perdez un chien, généralement c'est un drame.
Et pour on évoquait dans une première partie le sanglier, c'est ce genre de chien
qui... Non. Mon plaisir, c'est la chasse à la bécasse.
Ah, la bécasse, voilà. Et le setter, c'est plutôt pour ce genre de gibier.
C'est ça, voilà. D'ailleurs, je ne chasse que la bécasse, donc je suis pas... c'est pas moi qui ai tué beaucoup de sangliers dans l'Aude.
Et quel genre de chien ils utilisent pour les sangliers ?
Oh, bon, alors là, c'est les chiens courants, et il y a de multiples races dans le département.
Il n'y a pas de race de prédilection pour le sanglier.
Non. Chacun a son type de chasse, son biotope, ses habitudes, pareil. Je ne peux pas dire qu'il y a une race spécifique sur le département.
Ouais. Et quand on chasse la bécasse, Yves Bastier, dans quel coin on va qu'on est au doigt?
Ben, on chasse de la mer à la montagne, puisqu'on a, vous pouvez avoir du gibier d'eau jusqu'au grand gibier en montagne. Mais moi, quand je chasse, je vais essentiellement dans la piège, puisque c'est là où il y avait ma mère. Hein. Donc j'ai gardé l'habitude d'aller...
La piège, situé ça ?
La piège, c'est, j'allais dire, au sud de Castelnaudary, vers Belpech, entre Castelnaudary, Belpech... Salles-sur-l'Air, c'est les grandes capitales du département.
Oui, et là-bas, c'est un endroit propice à la bécasse.
Pas forcément, non. Moi, qui suis originaire aussi de la Haute-Vallée, j'aurais pu choisir d'autres secteurs. Mais après, c'est une habitude. On connaît le secteur. Non, mais puis, je vous rappelle, il y avait ma mère jusqu'à l'année dernière.
Voilà,
donc, je me dépensais le matin. Je récupérais tout à midi, d'ailleurs, avec elle, parce qu'elle me faisait bien manger. Donc, voilà. Donc, j'ai gardé l'habitude d'aller là.
Ouais. Et alors, quand vous ne bricolez pas ou vous ne chassez pas et que vous avez quand même envie de faire autre chose, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a par exemple des arts particuliers, la musique, la peinture, des choses comme ça qui vous séduisent ou qui vous attirent ou pas ?
Alors, je suis un homme essentiellement d'extérieur. Hein, donc, quand je suis à l'intérieur, je suis un homme assez malheureux. Voilà. j'adore la lecture, mais il faut avoir aussi le temps et l'esprit libéré pour pouvoir lire un bon livre. Après, pour continuer mes expériences extérieures, qui ne me prennent pas beaucoup physiquement, c'est que j'ai toujours fait de la moto. Et quand je peux, je pratique donc de faire un tour en moto. Ça fait du bien également. Esprit de liberté.
Ah oui, là encore, c'est vraiment l'homme d'extérieur.
Ah oui, complètement. Oui, voilà.
Ouais. Et alors après, au niveau de la façon de voir les choses, d'appréhender la vie, par exemple, est-ce que vous êtes superstitieux ?
Je pense pas, non. Je pense pas, mais on est toujours, même quand on dit qu'on l'est pas, on a un fond superstitieux d'un certain nombre de choses, c'est vrai.
Oui, parce que, et notamment, dans le, on sait que dans le monde rural, on l'est peut-être plus à cause des traditions, je ne sais pas. Vous n'avez pas hérité de votre famille ce genre de choses-là ?
Non, ça non. Non, non. Non, mais c'est, après, c'est bête. Alors, les jeunes vont rigoler, mais vous avez un corbeau noir qui vous passe sur la tête. Hein. Même si on n'est pas superstitieux, on n'aime pas. Vous avez une échelle placée, on n'aime pas passer sous l'échelle. Oui, on n'est pas superstitieux, mais en fait.
Parfois, ça peut être simplement de la prudence. Oui, voilà. Mais ça, c'est les petits trucs. Et le regard que vous portez sur la vie, êtes-vous plutôt un optimiste incurable ou quelqu'un de plus modéré dans la façon d'appréhender les choses?
J'étais, je pense, rester un optimiste. Sinon, on n'avance pas dans la vie. Les coups me font mal, quels qu'ils soient, petits ou grands, les coups me font mal. Mais je rebondis.
Mais dans la politique, il y en a forcément.
Oh là là, on était en dehors de la politique. Là, donc... non, mais je rebondis assez rapidement. Et après, j'allais dire, en vieillissant, je crois que on devient réaliste. Voilà.
Plus pragmatique.
Voilà. Donc, mais ça n'empêche pas de rester optimiste. Voilà. Moi, je. Si j'étais pas optimiste, je crois qu'il y a longtemps, on parlait de la politique, il y a longtemps que j'aurais laissé tomber un certain nombre de choses. Si on ne croit pas en quelque chose et que l'avenir est peut être bon et que l'être humain peut être bon, on ne fait rien, quoi. Donc déjà dire ça, c'est être optimiste.
Oui, c'est déjà poser de manière volontariste un certain nombre de choses. Est-ce que vous êtes, par exemple, attiré par la religion ? Est-ce que vous, sans trahir ce que vous ne voudriez pas trahir, mais est-ce que vous êtes religieux, par exemple ?
Non, je suis de religion catholique, comme tout, que je veux dire. Quasiment tout le monde. Je suis pas athée.
Et croyant, est-ce que vous êtes croyant ?
Non, mais je m'interroge. Voilà. Je m'interroge. Je suis en plus de profession, je suis un cartésien, hein, un prof de maths. Donc je crois vraiment à ce que je vois et à ce que je touche. Mais c'est vrai que par rapport aux interrogations de la vie, on peut se poser des questions. D'ailleurs, c'est des questions qui resteront sans réponse jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est pour ça que je peux dire je suis ni croyant ni athée. Et plus on avance dans la vie, et plus on se pose des questions d'où on vient, que sera le devenir. Puis ce qui me traumatise toujours, c'est cette notion d'infini, l'espace infini.
Ah oui, bah pour un mathématicien, forcément.
L'être humain, il est borné entre une vie, une naissance et une mort. Et c'est vrai qu'il faut aller des deux côtés et on n'aura pas de réponse. Alors je dis souvent à ma mère qui est très croyante, je dis quelque part t'as la chance de croire à quelque chose. Parce que ça te permet de te raccrocher à quelque chose. Ouais. Quand tu es comme moi, que tu es un peu paumé sur ce plan-là au niveau de la religion, je suis craintif parce que j'ai pas de réponse.
On est sceptique surtout, quoi.
C'est
peut-être.
Ça. C'est ça.
Oui. Et est-ce que vous avez le sens de l'humour? Alors au sens français qu'on lui donne, au sens anglais, c'est-à-dire la capacité de prendre les choses graves en rigolant un peu, ou en tout cas en ne dramatisant pas trop.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense avoir le sens de l'humour, mais après une phase, un peu moins humoristique. Voilà, comme je suis entier, c'est difficile. C'est difficile pour moi, des fois, d'encaisser un certain nombre de choses, en bien ou en mal d'ailleurs, qui m'oblige en vieillissant d'analyser avant de réagir. Voilà, même si je suis des fois assez impulsif. Mais oui, je crois que... D'ailleurs, quand vous voulez passer le cap sur un certain nombre de choses, y compris si vous voulez faire mal à quelqu'un, il vaut mieux le faire de manière humoristique.
Oui, voilà. Donc vous maniez, vous n'hésitez pas quand même à manier l'humour, voire l'ironie.
Je pense que oui.
Et alors, sur le plan... On a parlé des animaux tout à l'heure, alors les setters, les chiens. Est-ce que, en tant que maire ou en tant qu'homme, vous avez ce regard qui est de plus en plus aigu aujourd'hui sur la vie animale, la souffrance animale, par exemple?
Ah, mais même en tant que chasseur, je n'ai jamais accepté la souffrance animale. Même pour moi, chasseur, bon, ça je peux comprendre que tout le monde ne comprenne pas, hein, mais un gibier blessé ne doit jamais être abandonné. Voilà, ça c'est... Et puis, bon, bon, pourtant les animaux sont très cruels entre eux. Hein.
Oui.
Mais je le supporte de moins en moins d'ailleurs.
Oui. Donc la vieillesse ou le grand âge n'apporte pas davantage de résistance.
Non, au contraire.
Et alors, vous êtes, je suis obligé d'y revenir quand même un petit peu, vous êtes maire, donc vous exercez un certain pouvoir. Est-ce qu'il vous arrive de vous interroger sur ce qu'est le pouvoir avec la façon dont on peut en user, et surtout la crainte parfois d'en abuser? Est-ce que c'est des réflexions qui vous hantent?
Oui. Non, ben, ça ne me hante pas, mais je crois que c'est des questions qu'on doit se poser, on doit se poser en permanence, sinon on n'avance pas. C'est ce que certains ne comprennent pas me concernant. Je suis assez sûr de moi sur un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que l'homme que je suis ne se pose pas des questions en amont de la façon dont vous agissez et ce que vous faites, si c'est dans la logique des choses, si vous vous trompez pas, si vous blessez pas des gens, etc. Après, je suis très dur quand je dois appliquer quelque chose, ça me gêne pas, je le fais. C'est-à-dire, c'est mon boulot. Mais la question de l'homme sur lui-même, je pense que c'est nécessaire. Sinon, vous avancez tout seul, personne ne vous suit.
Oui, et à un moment, vous vous retournez, vous retrouvez.
Exactement,
tout ça.
Voilà. Donc, si vous voulez que les gens aussi comprennent les décisions que vous prenez, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les décisions que vous prenez, ou les propos que vous tenez, ben, je crois qu'il est nécessaire à un moment donné de s'arrêter, de faire le point avec vous-même, mais surtout avec les autres. Parce que les autres, si vous avez de vrais amis autour de vous, c'est eux qui vont vous le dire. Et c'est eux qui vont vous dire, là, tu n'as pas assez réfléchi ou tu t'es trompé, etc. Et là, il faut écouter.
Voilà. Et tout dernier point, vous acceptez ces critiques venant de vos amis, même si elles sont parfois désobligeantes.
De mes amis, hein, parce que les critiques faciles de certains, je m'en passe. Mais c'est vrai que, non, d'ailleurs, un ami, c'est fait pour ça. J'en ai pas 50. Des gens de confiance, j'en ai pas 50. Mais c'est vrai que, sur le coup, ça peut faire mal. Mais
ça vous sert de leçon quand même.
Je crois qu'il faut. Et vous savez, il y a 42 ans que je suis élu. Je pense que j'ai dû quand même écouter un peu dans ma carrière, sinon je pense que je ne serais pas là aujourd'hui.
Voilà, vous avez appris à tirer les leçons. Merci en tout cas, Yves Bastier.
Merci à vous.
Qu'on va conclure cette troisième partie. Notre prochain invité sera Alain Perea, député de l'Aude, La République En Marche d'ailleurs, pour le rappeler. Après quoi nous recevrons Didier Codorniou, le maire de La Nouvelle, monsieur Martin. Voilà pour les prochains invités. Et puis, comme toujours, confinement ou déconfinement oblige, avec toujours une petite part d'incertitude. Merci en tout cas aux auditeurs d'être restés en notre compagnie. Merci Yves Bastier.
Merci à vous.